Nous allons écouter maintenant Monsieur Éric Meyer, professeur émérite, historien, chercheur au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est à l'EHESS et à l'INALCO, qui va nous présenter une communication intitulée « Le processus de politisation des moines bouddhistes sri-lankais dans la période qui court de 1946 à très récemment, aux années 2015 ». Voilà.
Merci de votre invitation. On va s'éloigner beaucoup, à la fois dans l'espace et dans le temps, du contexte français. Mais j'espère que mon intervention va pouvoir donner des pistes pour ceux qui travaillent, comme la plupart d'entre vous, sur la sociologie française, ou en tout cas européenne. D'emblée, je crois qu'il faut rappeler que le bouddhisme est une religion d'essence monastique. Sans moines, il n'y a pas de bouddhisme. En tout cas, dans le contexte sri-lankais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. La transmission de la religion se fait par les moines. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de théologie non plus, d'ailleurs. Rappelons-le. Et donc, l'élection en avril 2004 de 9 moines bouddhistes à l'Assemblée législative de Sri Lanka, l'ancienne Ceylan, sous l'étiquette d'un parti politique intitulé « L'héritage de la nation singhalaise » ou, suivant une autre traduction, de la race singhalaise, et aussi le projet qui n'a pas abouti de la candidature à l'élection présidentielle de Sri Lanka en 2015 d'un moine, représentait quelque chose de totalement paradoxal par rapport à la tradition bouddhique. Ceci dit, pour comprendre cette évolution qui amène les moines sri-lankais à s'engager en politique, il faut remonter dans le temps, remonter jusqu'aux années de l'indépendance. Le pays est devenu indépendant en 1948. Et dans ces années-là, dans les années 40, un moine moderniste, qui s'appelait Valpola Rahulan, a publié un ouvrage qui est passé inaperçu chez les lecteurs qui ne savent pas le singhalais, mais qui est devenu une sorte de best-seller pour les lecteurs de la langue singhalaise, qui s'appelait Bhikshuvagai Urumaya, l'héritage du moine. Et dans cet ouvrage, qui est une sorte de source de ce bouddhisme politique, ou de, plutôt de cette implication des moines dans la politique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, eh bien, ce moine Rahula déclarait que les moines devaient s'engager pour un monde meilleur et que cet engagement social impliquait de facto un engagement politique. Alors, bon, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de la doctrine bouddhique, mais enfin, il faut que vous ayez à l'esprit d'abord que cette doctrine s'est élaborée sur une durée extrêmement longue, puisque le bouddhisme historique remonte au 5e siècle avant l'ère chrétienne, qu'il s'est développé d'abord en Inde. Le bouddhisme est une religion qui est d'origine indienne, qu'il s'est diffusé ensuite dans l'ensemble de l'Asie orientale et méridionale. Et que dans le contexte sri-lankais qui est différent, il faut avoir esprit du contexte tibétain, puisqu'en France on connaît surtout le bouddhisme à partir du Tibet, mais le bouddhisme tibétain n'est pas du tout un modèle qui soit généralisable à l'ensemble de l'univers bouddhique. Eh bien, dans le bouddhisme sri-lankais qui se rapproche davantage du bouddhisme tel qu'il existe au Myanmar, l'ancienne Birmanie et en Thaïlande, eh bien, les moines sont au centre du dispositif et seuls les moines peuvent atteindre à la libération, au salut. Mais enfin, le salut est une expression très, très occidentale et très chrétienne, plutôt à la libération, c'est-à-dire au nirvana, c'est-à-dire à l'extinction. Alors, le bouddhisme, par conséquent, est fondé sur l'idée du renoncement. Or, il n'y a pas de plus radicalement opposé à l'action politique que le renoncement. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des textes et de la doctrine, mais je voudrais vous expliquer que dans la doctrine telle qu'elle s'est élaborée dans le contexte sri-lankais, mais aussi plus généralement dans le contexte de l'Asie du Sud-Est, des éléments sont apparus qui ont commencé à donner des éléments de justification, disons doctrinale, à l'implication dans le monde. Le moine, pour pouvoir subsister, doit avoir l'appui du pouvoir politique du roi, car le moine est un mendiant et le roi est un donateur par définition. Et donc c'est cette alliance entre le pouvoir politique et, disons, le sangha, c'est-à-dire les religieux, qui permet à la religion de subsister. Il faut qu'il y ait des donations pour que le moine puisse développer sa doctrine et la diffuser. Or, lorsque les rois ne sont plus dignes, n'exercent plus leur rôle, eh bien, il faut que les moines réagissent et disent au roi qu'il faut changer de politique. Et donc, il va y avoir, au cours des siècles, des millénaires même, l'élaboration d'une sorte de discours. Ce n'est pas une doctrine à proprement parler, mais un discours qui s'élabore à l'intérieur de textes, qui sont des textes écrits dans la langue pali. Ce sont des chroniques. Ce sont des chroniques monastiques qui racontent la suite des rois et qui jugent les rois en fonction de leur capacité à soutenir et à protéger le bouddhisme et à assurer sa diffusion. Voilà, donc ces textes qu'on appelle les Vamsa, et le Mahavamsa, c'est le grand texte, c'est la grande chronique, sont, disons, la base doctrinale ou quasi-doctrinale qui va permettre de faire une lecture de ce que le... disons, une lecture monastique du politique. Voilà. Alors tout ceci s'élabore au cours des siècles. Il y a des versions d'ailleurs en langue vernaculaire qui apparaissent au cours de la période médiévale à partir du XIIIe, XIVe siècle. Et nous arrivons à la période coloniale. Alors juste une parenthèse, Sri Lanka a été colonisé très tôt mais partiellement par les Portugais qui y ont introduit d'ailleurs le catholicisme, puis par les Hollandais, puis par les Britanniques qui sont installés à la fin du XVIIIe siècle. Alors avec les Britanniques, les moines se trouvent confrontés à quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'il s'agit d'un pouvoir politique qui a aboli la monarchie, donc on n'a plus de pouvoir royal en face de soi, qui, disons, se définit en tout cas au début du XIXe siècle comme un système politique qui va diffuser les valeurs occidentales par des enseignants qui sont des enseignants pour la plupart membres de l'Église anglicane. Bon, il y aura aussi d'ailleurs plus tard des évangéliques qui vont venir, mais à l'origine ce sont les anglicans. Et voilà donc un pouvoir politique nouveau avec lequel il va falloir fonctionner. Alors les moines au début sont extrêmement en retrait, et puis à partir de la fin du XIXe siècle, ils s'impliquent dans des controverses qui sont des controverses, disons, quasi théologiques, face à des pasteurs protestants. Donc tout ceci n'a pas un caractère proprement politique. On ne peut pas dire qu'à l'époque, les moines soient déjà des porteurs du message de décolonisation, du message nationaliste, mais implicitement, il y a déjà cette image du moine qui est capable de tenir tête à porteurs de la culture chrétienne et coloniale, en l'occurrence en même temps. Alors, je passe sur les détails, mais je voudrais insister sur le rôle joué par les premiers moines de l'indépendance. Donc, j'ai évoqué le cas de ce personnage qui, effectivement, Valpolarua. Alors, je vous précise que les moines ont des noms de moines. Ce sont pas leurs noms de naissance. Hein. Valpola, c'est le nom de son village de naissance, et Raoula, c'est le nom qui s'est donné. Hein. Bon, ils ont des noms civils tout à fait différents. Et donc, le rôle de ce moine, mais d'une série d'autres moines qui, à partir des années 1940, ont commencé à développer un message qui était un message nettement politique. Alors, cette politisation des moines, elle s'est en quelque sorte, cristallisée autour de l'action menée par un politicien qui s'appelait Bandaranaike, qui était un homme issu de la société la plus occidentalisée de l'île, mais qui avait fait, disons, au cours de ses années, à l'issue de ses années d'études à Oxford, une conversion, un retour aux sources bouddhiques. Bon, sa famille était anglicane, mais il avait décidé de se reconvertir au bouddhisme d'une façon extrêmement visible, en changeant, en se mettant à s'habiller avec ce qu'on appelait l'habit national, qui est une invention d'ailleurs. Enfin, disons qu'il y a tout un développement qui veut mettre en avant les valeurs nativistes, si vous voulez. Alors, tout ceci va aboutir à ce que le parti politique qu'il crée dans les années 50 va attirer beaucoup de moines. Alors, durant la période qui s'ouvre dans les années 50 et qui va se fermer, si vous voulez, ou en tout cas évoluer dans les années 80, on peut dire qu'il y a une instrumentalisation du bouddhisme par les politiques. C'est-à-dire que ce sont les politiques qui vont chercher à avoir l'appui de moines bouddhistes pour, disons, obtenir davantage de voix, pour apparaître davantage authentique sur le plan culturel, dans la mesure où beaucoup de ces politiciens, dans les années 50, sont encore très profondément occidentalisés, et donc ils sont en recherche d'une sorte de justification, et ils vont contribuer largement, ces politiciens, notamment Bandaranaike, à faire du bouddhisme et de la langue singhalaise, et ça c'est très important puisque l'aspect linguistique et l'aspect religieux vont être étroitement liés durant cette période-là, les critères d'une authenticité nationale. Au point qu'en 1956, lorsque Bandaranaike prend le pouvoir en gagnant les élections législatives, son programme consiste à abandonner l'anglais au profit du seul singhalais comme langue nationale, et donc au détriment également du tamoul qui est parlé par 25% de la population, ce qui est l'une des origines de la rébellion tamoul dont vous avez probablement entendu parler. Et d'autre part, le bouddhisme en 1972, lorsque le pays cesse d'être un dominion, puisque le pays est resté après l'indépendance un dominion pendant très longtemps, et il n'a proclamé, la République n'a été proclamée qu'en 72, donc rupture des derniers liens qui le liaient avec la couronne britannique. Eh bien, lorsque la nouvelle constitution a été établie en 72, le bouddhisme a été proclamé comme non pas la religion officielle, mais la religion que l'État se devait de protéger en priorité, tout en donnant aux autres religions les droits de libre exercice, de libre diffusion. Voilà, donc le bouddhisme devenait une sorte de critère qui avait un statut particulier au niveau de l'État. Alors, cette instrumentalisation du bouddhisme par les politiques s'est prolongée après 72, mais dans des contextes qui avaient beaucoup changé. D'abord parce que des crises politiques successives ont déchiré le pays. D'abord, une rébellion qui a été lancée par un groupe marxiste, disons, de sensibilité guévariste, qui a cherché à prendre le pouvoir en 71 puis en 89, et d'autre part, et surtout, par le mouvement séparatiste lancé par différents groupes tamouls qui se sont progressivement entre-détruits pour laisser la place au seul groupe des Tigres de libération de l'Islam tamoul, les LTTE, qui ont mené une guerre contre les troupes gouvernementales, guerre qui s'est terminée par l'écrasement par le gouvernement en mai 2009 de la rébellion séparatiste de Tamoul. Dans ce contexte nouveau, les moines ont trouvé un nouvel élément d'affirmation. Puisqu'ils se sont définis comme les défenseurs de l'unité nationale contre la rébellion tamoule. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a pas de bouddhistes parmi les tamouls. Les bouddhistes sont tous des gens de langue singhalaise. Autrefois, dans l'Antiquité, il y a eu des bouddhistes tamouls, mais il n'y en avait plus dans l'île. Ceci dit, les tamouls ne se levaient pas contre le gouvernement sur la base d'une revendication de nature religieuse. puisque les Tamouls sont aussi bien hindouistes de sensibilité shivaïte que chrétiens et que musulmans. Encore que les musulmans qui sont de langue tamoule n'ont jamais lié leur destin à celui des Tamouls d'autres sensibilités religieuses. Mais ceci dit, la rébellion tamoule n'est pas un phénomène qui soit fondé sur la défense de quelque religion que ce soit, mais les bouddhistes ont considéré que cette rébellion était une rébellion qui menaçait la survie du bouddhisme dans la majorité de la population sri-lankaise, qui est de langue singhalaise et qui représente 70 à 75% de la population. Voilà, donc c'est un contexte un peu compliqué, mais il faut bien voir que la nature même de la rébellion tamoule n'était pas religieuse. Ceci dit, les moines se sont, donné, et là c'est la totalité des moines, ont pris des positions extrêmement hostiles à ce mouvement et à toute concession à ce mouvement, de sorte que les politiciens qui étaient au pouvoir et qui ont mené la lutte contre cette rébellion séparatiste de Tamoul ont utilisé les moines, mais les moines, durant cette période qui s'ouvre en 1983 et qui se termine en 2009, vont avoir tendance à développer une position autonome. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau. Donc je vais insister pour terminer. J'ai combien de temps encore ?
10 minutes.
10 minutes, merci. Je vais insister sur ce phénomène d'autonomisation des moines sri-lankais par rapport à, au contexte politique général et cette volonté des moines de créer des partis politiques. Alors, comme je vous l'ai dit, le texte de départ, c'est le Bhikshu Vajje Urumaya, c'est-à-dire l'héritage du moine, ce livre paru en 1947 ou 46. Durant les années qui ont suivi, les moines se sont constitués en Front uni des moines, c'est-à-dire une organisation qui n'était pas exactement une organisation politique, puisqu'elle ne visait pas à obtenir des voix lors de quelques élections que ce soit, mais ce Front uni des moines, constitué dans les années, au début des années 50, a appuyé le parti politique de Marna Ike, et à la tête de cette organisation, un moine qui s'appelait Buddharakita constitué en quelque sorte un groupe de pression qui, une fois que Banaike a été au pouvoir, a cherché à obtenir de lui de plus en plus d'avantages et en particulier d'avantages matériels. Ce moine était un affairiste qui était à la tête du plus riche des monastères de la région de Colombo. Et il a constitué progressivement une sorte de force qui a abouti à ce que, n'ayant pas obtenu les avantages qu'il escomptait, il a engagé les services d'un ancien moine pour assassiner le premier ministre Banaranaike. Assassinat qui a été commis donc par un moine, plutôt par un ex-moine, en 1959. Donc là, il y avait déjà le signe d'une sorte d'autonomisation, le moine assassinant le président. Alors évidemment, il n'était plus moine, mais c'était quand même, bon, pas le président, puisque c'était, on était dans un système qui n'était pas un système présidentiel à l'époque. Enfin, peu importe. Voilà, alors donc là, il y a une première étape, il y a un premier tournant. Le deuxième tournant est de nature sociologique ou organisationnelle. C'est le fait que, jusqu'alors, les moines étaient formés dans des séminaires. À partir des années 60, les moines sont formés, ou en tout cas une partie d'entre eux, sont formés parallèlement dans les universités. Ou plutôt, c'est un peu plus complexe que ça, les deux principaux séminaires de l'île sont transformés en universités d'État. Donc les moines vont y côtoyer des étudiants, et même plus tard des étudiantes, qui mènent des cursus, bon, en l'occurrence ce sont les cursus littéraires, et ils vont participer aux mêmes assemblées générales d'étudiants, aux mêmes contestations. Ils n'habitent pas dans les mêmes cités universitaires, bien sûr, puisque ce sont des moines, mais disons qu'ils se rapprochent de cette jeunesse étudiante, contestataire et marxiste, de la fin des années 60. Et donc, lorsque le mouvement marxiste dont je vous ai parlé qui s'appelle le JVP, se met en place et cherche à fomenter une sorte de coup d'État en 1971, il y a déjà quelques moines qui sont impliqués. Cette première tentative en 71 se solde par un désastre, mais le JVP continue à exister en tant qu'organisation souterraine et il réémerge dans les années 80 avec une deuxième tentative en 87, entre 87 et 90 pour prendre le pouvoir, qui est une tentative extrêmement sanglante puisque le JVP au début multiplie les assassinats politiques, mais il va être écrasé par des groupes paramilitaires mis en place par le pouvoir qui vont frapper toute la jeunesse singalaise étudiante, y compris les moines, dans les années 89-90, avec un nombre de victimes incroyables, mais dont on n'a absolument pas parlé en Occident, probablement une quarantaine, 40 000 victimes. Et parmi ces 40 000 victimes, il y a plusieurs milliers de moines, 1 000 à 2 000 moines, qui sont tués dans de façon extrajudiciaire durant cette année-là. Alors cet événement est un événement très traumatique qui va par la suite amener les moines, ou en tout cas les jeunes moines, à continuer à se mobiliser. Mais il y a une scission entre les moines les plus âgés, qui sont les moines installés, qui sont à la tête d'un certain nombre d'institutions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous voulez, dans la discussion, on pourra en reparler, mais d'institutions qui sont des institutions établies, et puis ces jeunes moines qui se sentent mis à l'écart et qui ont une solidarité avec la jeunesse révolutionnaire. Alors ces jeunes moines, eh bien, lorsque le mouvement tamoul se déclenche, ils vont s'engager en politique et ils vont se mettre à constituer un parti politique qui au départ se définit pas comme parti des moines, mais qui reprend ce terme de Urumaya, qui signifie l'héritage, la tradition, et qui va présenter aux élections donc aux élections de 2004 des candidats dans 200 circonscriptions et qui en reportent 9. Alors, il est intéressant de noter que les circonscriptions où des moines ont été élus sont des circonscriptions urbaines, puisque à cette époque-là, il y a une transformation assez profonde de la sociologie sri-lankaise, une urbanisation accélérée, et le monachisme qui était à l'origine un phénomène fondamentalement rural devient de plus en plus urbain. Donc, ce sont des moines urbains qui vont être élus. Alors, ce n'est pas beaucoup, 9 moines, mais 9 moines qui vont siéger en robe à l'Assemblée nationale, ça ne s'était jamais vu. Par la suite, cette première organisation va éclater pour des raisons politiques assez complexes. Bon, on en reparlera si vous voulez. Et une deuxième organisation naît à l'intérieur de la première qui s'appelle l'Armée de la Force Bouddhiste, Bodhu Balasena. Et ce Bodhu Balasena, qui est donc une organisation née à l'intérieur du premier parti politique, va s'armer véritablement, c'est-à-dire utiliser les services de personnages qui sont il ne s'agit pas de moines, mais il s'agit de personnages qui sont au service de moines, et elle va s'armer, et elle va, après une première phase qui va consister pour eux à essayer de lutter contre des moines qu'ils estiment être déviants par rapport à la tradition bouddhique, hein, puisqu'il y a une sorte de phénomène de fondamentalisme au début. Eh bien, très rapidement, ce Bodhu Balasena devient une force de frappe qui va être orientée non pas tant contre les Tamouls, puisque la rébellion tamoule s'est terminée, mais contre les musulmans. Et là, on a le dernier avatar et le dernier événement extrêmement important dans cette histoire qui rapproche Sri Lanka de la Birmanie. Si vous connaissez un petit peu ce qui se passe en Birmanie actuellement avec ce mouvement mené par des bouddhistes et par des moines contre les musulmans birmans, eh bien, vous avez la même chose qui s'est produite à Sri Lanka après 2010. Disons que le phénomène a pris de l'ampleur entre 2010 et 2015. Et c'est la Bodubala Sena qui est à l'origine de violences exercées contre les musulmans. Avec un certain nombre d'arguments qui sont assez intéressants à remarquer. Donc, je vais terminer là-dessus. Puisque la Bodubala Sena développe son argumentation en disant d'abord sur le thème de la natalité des musulmans comparée à la natalité des bouddhistes. Et donc il y a toute une argumentation qui consiste à dire les bouddhistes vont être complètement envahis par les jeunes musulmans, le taux de natalité musulmane est bien supérieur parce que les bouddhistes, eux, pratiquent la limitation des naissances et ils ne devraient pas. Donc il faut, vous voyez tout ce discours, il va éveiller des points de comparaison avec ce que vous trouvez en Occident, bien entendu. Donc ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est la visibilité des musulmans dans l'espace public, qui est un phénomène relativement nouveau à Sri Lanka. La première fois que je suis allé dans le pays en 1975, on ne voyait pas ou presque pas de femmes voilées. Aujourd'hui, le niqab est courant en milieu urbain. Et le troisième élément, c'est la question de du code civil, enfin plutôt du code musulman, qui est intégré dans le système juridique sri-lankais. Et donc, le Bodubala Sena et d'autres, d'ailleurs, d'autres activistes bouddhistes développent l'idée qu'il faut un seul code civil. Quatrième argument, la migration des femmes au Proche-Orient. Il faut savoir que Sri Lanka a envoyé, enfin, que l'une des sources de revenus du pays, c'est l'argent rapporté par les femmes qui partent comme domestiques dans les pays du Moyen-Orient. Et donc l'un des thèmes développés par la Bodubala Sena, mais aussi, vous le remarquerez, par les hindouistes militants en Inde, c'est de mettre un terme à cette pratique qui a donné, il y a d'ailleurs eu des incidents dramatiques, il y a eu des femmes qui ont été exécutées d'ailleurs, des femmes sri-lankaises qui ont été exécutées dans les pays du Moyen-Orient. Donc là, il y a tout un argumentaire qui est développé. Dernier argumentaire, la viande halal, enfin plutôt la nourriture halal. Et là, on retrouve un argumentaire qui cherche à, disons, rapprocher les intérêts des commerçants bouddhistes singalais et à les opposer aux commerçants musulmans qui sont fort nombreux, qui tiennent, disons, tout ce qui est boucherie, mais qui sont aussi fort nombreux dans d'autres domaines. Et donc là, on a quelque chose qui est un discours qui est développé par le Bodubala Sena, mais qui est beaucoup plus large et qui a beaucoup d'écho dans la population sri-lankaise. Voilà, donc vous avez cette évolution. Alors ceci dit, là on n'est plus seulement dans une question de relation entre les moines et le pouvoir. D'autre part, il faut savoir quand même que ce Bodubala Sena n'a pas une audience telle qu'il puisse basculer politiquement le pays, puisque lorsque les élections qui devaient avoir lieu en 2015 se sont déroulées, eh bien le président qui était en place à l'époque, Rajapaksa, qui avait joué un rôle important pour s'appuyer sur le Bodubala Sena, a été battu aux élections. Et donc le nouveau président a fait de cette organisation une organisation qui est sinon interdite, du moins étroitement contrôlée. Et c'est à l'occasion de ces élections de 2015 que dans l'année qui a précédé, certains moines qui étaient extrêmement hostiles au message du Bodubala Sena ont essayé de pousser en avant, faute d'autres candidatures, la candidature d'un moine qui, lui, était un moine extrêmement, je dirais pas libéral parce que c'est pas le mot, mais ouvert, disons, tout en étant très politisé, qui était très ouvert à des concessions aux minorités en particulier. Et ce moine, finalement, ne s'est pas présenté puisqu'on a trouvé un autre candidat. Mais il a été question à un moment donné de présenter un moine comme à la présidence de la République. Je m'arrête là.
Je vous remercie.